Europe 1, en balade avec Viaz. Frédéric Taddeï.
Bonjour, bon dimanche. C'est avec Viaz, l'un de nos plus grands dessinateurs de presse, que nous partons en balade aujourd'hui. De son vrai nom, Pierre Wiazemski, raffiné, élégant. Il est le petit-fils de François Mauriac et d'un prince russe. Il descend de Riourik, le fondateur de la Russie au IXe siècle. Viaz nous a donné rendez-vous dans le passage Verdeau, à deux pas de l'Obs, où il travaille depuis 1972.
Europe 1, en balade avec Viaz.
Bonjour Viaz. J'aime beaucoup les passages, vous aussi, vous les empruntez
ça,
souvent.
Les passages, c'est magnifique. Ceux-là sont magnifiques. Il y a toute une série de passages qui vont depuis la galerie Vivienne, en fait, après le passage Jouffroy, le passage Panorama, après le passage Jouffroy, et là on est au passage Verdeau. En fait, on va remonter les passages.
Oui.
En général, je le fais dans l'autre sens, parce que je prends mon bus du côté de la rue de Vaux-Montmartre. Et là, on va vers mon travail, c'est-à-dire vers le Nouvel Obs.
Vers le Nouvel Obs, oui, qui est place de la Bourse maintenant.
Il y a plein de libraires où je trouve malheureusement jamais rien. Surtout celui-là. Là, il y a une dame très charmante. Chaque fois que je rentre, je la regarde, elle me fait « il n'y a rien », avec un grand sourire.
Pour moi, les passages, c'est le milieu du 19e siècle. Oui. On construisait ça pour s'abriter de la pluie.
On s'abrite toujours de la pluie.
Oui, mais j'ai l'impression qu'on les construisait comme on construit aujourd'hui des centres commerciaux.
Absolument.
En fait, hein.
Beaucoup ont été détruits, je crois. Il y en avait beaucoup plus.
Ils ont pensé à les détruire.
Ils sont magnifiques.
Il en reste un certain nombre.
Il y a des gravures, des aquarelles. Les mêmes encadrés 20 mètres plus loin, ça vaut 4 fois plus. C'est pas tellement cher. J'assure, vous regardez les prix, c'est très raisonnable.
Oui, c'est vrai. Vous travaillez un peu comme à l'époque, comme Daumier, à la plume, aux encres de couleur.
En mieux, Daumier,
certainement. Pourquoi est-ce que vous êtes si frais, réfractaire à la modernité?
C'est comme ça, j'y peux rien. Moi, je suis un mug du papier, je travaille à la plume, aux encres de couleur. Non, j'ai même pas d'Internet.
Toujours pas?
Non, toujours pas. Enfin, je m'y mette, c'est obligé.
Vous voulez dire que vos dessins, vous les apportez toujours à l'Obs à pied?
Absolument.
Comme autrefois,
au bus.
En passant par les passages.
Absolument.
L'Obs, ça fait depuis 1972 presque un demi-siècle.
Vous vous rendez compte, c'est incroyable.
C'est dingue, hein.
J'avais demandé à l'époque un contrat de 6 mois qui m'a été refusé.
Aujourd'hui, dites-moi, vous êtes salarié quand même.
Mais sûr que oui. Voilà, oui. Depuis Giscard, hein? 1874.
Ah oui, en effet. Quelle a été la meilleure période pour vous en tant que dessinateur politique?
Rocard Mitterrand, c'est génial.
Chirac-Giscard, c'était bien.
Chirac-Giscard, c'était pas mal. Rocard Mitterrand, les duos comme ça, c'est bien. Là, à l'heure actuelle, c'est un peu ennuyeux parce que Édouard Philippe, c'est rien. Donc, c'est uniquement.
Attendez, ça va peut-être devenir.
Ça va peut-être devenir. Pour le moment, il n'y a pas d'opposition réelle.
Alors, on est devant un petit café. Il y a quelques bistrots encore hein, dans les passages.
Mais vous voyez là, ici, là, il y a un autre dessinateur de bande dessinée.
Oui, de BD, oui.
Moi, j'ai grandi avec la bande dessinée.
C'est vrai.
Depuis tout petit. Mais nos parents nous laissaient voir toutes les bandes dessinées. Donc on avait Tintin, Spirou, Mickey français, Mickey belge, plus tous autres trucs. Après il y a eu Pilote évidemment. Donc j'avais ça tout le temps. J'ai appris l'histoire grâce à la bande dessinée.
Le français aussi, parce que vous êtes beaucoup baladé quand vous étiez enfant. Votre père était diplomate.
Oui, je suis arrivé à Paris à l'âge de 12 ans en fait.
Avant vous étiez où?
D'abord je suis né à Rome. Donc je ne suis même pas français de naissance. Je suis parti après en Uruguay pendant 3 ans. Après on est passé à la Suisse pendant 3 ans et demi, 4 ans. Et après, on est parti pour Caracas.
Pas mal.
On passait par Paris hein, pendant les vacances, etc. Mais on n'habitait jamais. Je suis arrivé définitivement en mai-juin 61. Et le retour a été très dur. Parce que vous vous rendez compte, pendant 4 ans, dès qu'il commençait à faire mauvais, on prenait le bateau. Le transatlantique, ça existait à l'époque. Ouais. Et on partait vers le soleil. C'était génial.
Eh oui.
Et tout d'un coup, je suis resté là, à Paris. L'automne est arrivé. C'était beaucoup plus dur en classe. C'était affreux. Il s'est mis à pleuvoir. Il faisait nuit. Je suis obligé d'ailleurs d'aller à la messe tous les, je sais pas, tous les... Ouais, c'était affreux.
Là, on quitte le passage Verdeau. On traverse la rue et on va se retrouver dans le passage Jouffroy, puisque les passages se succédaient les uns aux autres hein, pour qu'on ait... On puisse rester toujours à l'intérieur. Celui-là, c'est un des plus modernes. Il date de 1846.
46, écrit
dessus. Je crois que le dallage est d'origine. Et c'était surtout le premier avec une verrière, tout en haut.
Mais c'est
tout
magnifique.
En métal et
ils
en verre.
Magnifiques. Et les magasins sont magnifiques.
Les magasins sont toujours en bois.
Mais comme vous voyez ce qu'il y a dedans, c'est pas moderne, non, du tout. Hein. Non, il y a des livres, des cadres, des tableaux, des estampes. Des... Ouais.
Au fond, tout ça, ça date de Charles X. À l'époque, vos ancêtres, à vous, étaient princes en Russie.
Mais ils sont toujours princes, mais pas en Russie.
Vous-même, vous êtes prince ?
Bah oui.
Ouais.
Je n'en garde aucune fierté particulière, mais c'est une évidence, oui, bien sûr.
Là, on est devant la sortie du musée Grévin.
Ouais.
Vous y alliez quand vous étiez petit, non ?
Oui, mais avant, c'était bien, parce qu'il n'y avait que des trucs historiques.
Et oui.
Maintenant, on voit Cyril Hanouna, ou même vous.
Ah non, je ne suis pas assez connu.
Ah, bon, bref. Vous voyez dans le cas. Ouais.
Non, mais c'est normal, c'est pour racoler les jeunes.
Hein. Oui, c'est possible, mais moi, j'étais jeune. Ah. Moi, ce qui m'intéressait, c'est... Je crois qu'il reste quand même, la princesse de Lamballe. Au bout d'une pique.
Au bout d'une pique, oui.
Et je crois que le meurtre de Marat existe toujours aussi.
Ah oui, moi, ça m'avait beaucoup frappé quand j'étais petit. Oui, Charles Corday enfonçant son couteau avec sa baignoire à sabots. Et là, l'hôtel Chopin, vous vous souvenez, c'est le début de Mon homme, le film de Bertrand Blier.
Ah, j'ai oublié.
Et ça commence là, avec Gérard Lanvin et Anne Grimbert. C'est dans l'hôtel Chopin, qui est à l'intérieur du passage. Et alors, votre père, donc tout prince Vyazemski, il s'est quand même battu avec l'armée rouge. Alors, qu'est-ce qu'il faisait dans l'armée rouge ?
C'est-à-dire que papa, il a quitté la Russie à l'âge de 7 ans, évidemment anticommuniste, pas du tout antisémite, puisque son meilleur ami en classe, c'était Stéphane Hessel.
Ah oui, en effet. Oui. À l'époque, c'est vrai que l'aristocratie russe était très antisémite.
Oui, bien sûr, c'est normal. Hein. C'était les bolcheviques, donc des juifs, en principe, qui les avaient chassés, qui leur avaient tout pris. Et lui, non. Mais par contre, donc il a fait la guerre dans l'armée française, il a été prisonnier en 40, il est resté prisonnier, on l'a mis dans un camp de prisonniers avec des soviétiques. Il a découvert son peuple. Il appelait camarade prince dans le camp. Et à la fin 1944, quand ils ont été libérés par l'armée rouge, les soviétiques ont dit, on a là un russe blanc, mais il faut le prendre avec nous, il est bien. Donc il a terminé la guerre comme ça. Et ils lui ont demandé de rentrer. Ils lui ont dit, vous accepteriez de rentrer ? Il a dit oui.
Oula.
Il a dit, seule condition, c'est que mes parents puissent rentrer aussi. Et là, ils lui ont dit non. Du coup, il a réintégré l'armée française. Où il a rencontré maman.
Et oui, vous êtes né comme ça.
Né comme ça, oui.
Europe 1.
Viaz, on se retrouve dans un instant. Passage Jouffroy.
Frédéric Taddeï est en balade aujourd'hui avec Viaz. Alors on les rejoint dans le 9e arrondissement de Paris, dans une des librairies préférées du dessinateur.
Nous sommes avec Viaz devant la librairie Le Petit Roi, qui se trouve dans le passage Jouffroy, une librairie que vous fréquentez assidûment, je crois.
Oui, d'abord parce que j'adore la bande dessinée. J'ai la BD depuis toujours. Et que malheureusement pour moi, maintenant, c'est devenu trop cher. Mais il y a des choses magnifiques. Regardez, vous voyez là en vitrine, il y a des éditions originales de Tintin. Et j'ose même pas vous montrer les prix de ça.
Le sceptre de Tocard en 1939.
Ça, c'est les oncles Paul, l'histoire de l'oncle Paul.
Oui, je me souviens, je lisais ça dans Spirou. Oui.
Moi, j'ai appris un nombre de trucs formidables grâce à l'oncle Paul. C'est incroyable.
Oui, il avait sa pipe, un nœud papillon, et il était assis dans un fauteuil.
Et deux petits neveux à la con qui étaient toujours... Et c'était, et chaque fois, c'était « Oh, les filles, c'est nul, c'est bon qu'à faire la cuisine. » Vous n'avez pas tort, garçon. Vous vous trompez, les filles, c'est pas bon qu'à faire la cuisine. Écoutez l'histoire de Jeanne Hachette. Et hop, c'était génial. Et chaque semaine, j'ai appris un nombre de trucs comme ça, totalement improbable.
D'où vient cette récurrence des neveux dans la bande dessinée ? Mickey aussi a des neveux, Donald a des neveux.
Ils ne sont pas mariés, ils ne peuvent pas avoir d'enfants.
Donc ils ont des neveux.
Ouais. Ouais. Maintenant, neveux, ça peut. L'oncle Paul, maintenant, on peut prêter à confusion avec ses petits neveux. Mais à l'époque, non. Ils ne sont pas mariés. C'est comme Tarzan. Tarzan n'est pas marié avec Jane. Et quand il s'est venu au cinéma avec Johnny Westmuller, Hollywood a interdit qu'ils aient un enfant.
Et pourtant, il y avait un petit, non ?
Oui, mais c'était un enfant trouvé. C'est un avion qui s'écrase et le seul survivant, c'est un gamin. Parce qu'ils sont ensemble tout le temps, mais ils ne baissent pas. Ils ne peuvent pas baiser, ils ne sont pas mariés. Non, mais c'est incroyable. Bah, c'est pareil, je pense, pour Mickey. Pour
dans tous les films hollywoodiens jusque dans les années 60, à chaque fois qu'on voit un couple, ils ont toujours des lits jumeaux.
Oui.
Ma mère, je me souviens, était persuadée jusqu'à ce qu'elle aille aux États-Unis que les Américains dormaient dans des lits jumeaux. Vous avez fini par en faire de la bande dessinée vous-même ? Les aventures du fantôme qui pète.
Oui, non, c'est pas des bandes. Non, ça c'est des livres d'enfance, ça n'a rien à
voir. Oui.
Alors pour tout vous dire, je sais pas si j'ai 30 secondes pour raconter ça.
Oui,
ça a été le traumatisme de ma vie, ça. J'en veux encore à maman, bien qu'elle soit morte depuis un petit bout de temps. Parce que quand j'étais môme, je faisais de la bande dessinée. Je rêvais d'en faire, j'en faisais. C'était pas mal d'ailleurs en plus. Et un jour, maman me dit, François a appelé, ils ont appris que tu faisais de la bande dessinée, ça les intéresse. Moi, comme un con, j'avais 14-15 ans. Formidable! Je vais rue Réaumur, là, au siège de François. Je remonte ma bande dessinée que j'avais emportée, que je n'ai jamais récupérée d'ailleurs. On m'interroge, on me prend en photo et je pars tout content. 15 jours, 3 semaines après, maman me dit « Ah, bah c'est paru dans François ». Je cours voir, c'était dans les Potins de la Commère. Le Potin de la Commère, c'était l'origine des trucs people à la con.
Oui, c'était les gossips, c'était les ragots.
Mais c'était le petit-fils de François Mauriac qui veut faire de la bande dessinée.
Ah, ils l'ont pas montré la bande dessinée.
Non, ils ont montré un dessin, un petit dessin, une photo de moi, j'avais l'air d'un con, je disais des conneries. Je suis rentré sous terre de honte, mais de honte. Mais c'était... J'ai demandé à maman, mais pourquoi tu m'as pas dit ? Ah bah j'ai oublié. Et encore maintenant, je lui en veux, de ça. Et ce qui était sidéré, c'est que le lendemain, je suis descendu en classe, je suis allé en classe, et je me suis dit, tout le monde va se foutre de ma gueule, tout le monde. On va se dire, je suis un con. Pas du tout, tout le monde m'a félicité.
Eh bien oui, vous étiez dans le journal.
Oui, mais là, j'ai réalisé que les gens étaient des cons. Mais j'en ai pas parlé pendant 20 ans, 30 ans. Maintenant, j'en parle, je rigole. Mais...
Et le fantôme qui pète, alors ça, c'est un livre pour enfants.
Ça, c'est une série. C'est une série pour
enfants.
Eh oui,
vous en êtes à combien, là, maintenant ?
Sixième. Sixième volume. Commencer le septième volume. Ouais.
Et donc, c'est l'histoire d'un fantôme qui vit avec ses... Alors, c'est pas de ses neveux, lui, c'est bien ses enfants.
Ah non, ce sont les petits-enfants. Il n'y a pas les parents. Ouais. Non, mais il y a les grands-parents et les petits-enfants.
Prouti, Prouta et Rototo.
Ouais, ça sont les enfants, de... parce que le fantôme qui pète, il tombe amoureux d'une fantômette qui pète aussi. Et comme ils sont amoureux, ils trouvent que ça sent la rose. Évidemment, ça sent la rose, mais quand on est amoureux, on trouve que ça sent la rose.
Vous l'avez déjà raconté, mais racontez-moi quand même comment vous avez eu l'idée du fantôme qui pète, parce que j'adore cette histoire.
Bah, j'étais avec ma chère et tendre épouse Régine, on était à la campagne.
Régine de Forge.
Et un soir, tout d'un coup, il y a un prout. Je dis comme ça, t'exagères quand même. Je me dis, c'est pas moi. Je dis, Régine, c'est pas moi, donc ça peut être que toi. Je te jure que c'est pas moi. Alors moi, je dis, bon, ben. Alors ça doit être un fantôme qui pète. Ben oui, ça doit être ça, c'est un fantôme. Là-dessus, elle s'est endormie. Et moi, je dis, ça peut être une bonne idée de base de départ pour une histoire. Jusqu'à sa mort, elle m'a toujours dit que ce n'était pas elle. Hein.
Oui, bah, évidemment, c'était un fantôme.
C'était peut-être un fantôme, à y savoir.
D'où l'histoire de ce fantôme qui hante une maison.
Voilà. Oui, parce qu'il ne veut pas que la maison soit habitée. Alors, il fait fuir les locataires potentiels.
Qu'est-ce qu'il aurait pensé, François Mauriac, du fantôme qui pète ?
Je ne sais pas si. Oh là là, qu'est-ce qu'il aurait pensé de mes dessins politiques ? Qu'est-ce qu'il aurait pensé de. Je ne sais rien du tout, je ne veux pas le savoir.
On va en parler quand même. Oui, on se retrouve dans un instant avec Viaz dans le passage d'eau froid. Nous sommes avec Viaz, toujours dans le passage Joufroid, au milieu des boutiques de curiosités, des vieilles librairies, des magasins de jouets, des pâtisseries aussi, sur un dallage qui date, alors peut-être pas le dallage, mais en tout cas le dessin, date du milieu du 19e siècle. Viaz, c'était la grande époque des caricaturistes, sous Charles X, mais à l'époque, ils allaient en prison.
Mon premier livre, qui s'appelait « En attendant le grand soir », qui est publié en 1975, chez De Noël.
Ah ben, il y avait même une préface de Michel Foucault,
absolument,
je crois.
Et qui avait fait un gros travail à la BN. Donc, il parle de ça, justement. Il parle de l'apparition de... Que en fait, la Révolution a coupé la tête du roi. Mais tout d'un coup, leur visage est apparu vraiment. C'est à partir de là qu'on commence à caricaturer les rois. En effet, sous Charles X, on n'est mieux pas. Mais sous Louis-Philippe, ça s'est fait régulièrement. Louis-Philippe a été caricaturé.
Oui, possible. En forme de poire.
Oui.
Et ça avait valu à Daumier de quelques jours de prison, d'ailleurs.
Là encore, excusez-moi, ce n'est pas Daumier.
Non ?
Non, on le prête à Daumier, c'est Philippon.
Ah,
le patron du journal, qui l'a fait comme ça. Et qui, au procès, a montré. C'est-à-dire, il a fait toute une série de dessins. Et petit à petit, la gueule de Louis-Philippe se transformait en poire. De ça à ça, on ne peut pas faire un procès. De ça à ça, on ne peut pas faire un procès. De ça à ça, on ne peut pas faire un procès. Et arrivé, c'était une poire. C'est génial. Et ils ont été condamnés à publier en première page l'arrêt de condamnation. Et ils l'ont fait, mais ils ont imprimé de manière à ça forme une poire. Moi, j'ai le journal. C'est absolument génial.
Qui avez-vous pris le plus de plaisir à caricaturer, vous, en tant que dessinateur ?
Chirac, beaucoup. Ouais.
Chirac ?
Oui. Ça dépend des moments, il n'y a pas de règle.
Sarkozy et...
Non, ils sont bien. Hollande, c'est vachement bien. C'est vrai que Macron n'est pas intéressant, ça. Il y a des gens qui sont incaricaturables.
Qui ?
Plein. En général, c'est mauvais signe. Quand ils ne sont pas caricaturables, ça, ils ne restent pas.
Ah, ça dépend. Alain Delon, très difficile à caricaturer. Oui, il a fait une belle carrière.
Oui, c'est vrai que les beaux mecs sont incaricaturables. C'est comme les femmes.
Et justement, quand vous avez débuté à l'Obs en 72, il n'y avait pas de femmes dans la politique. Puis il y en a eu de plus en plus. Est-ce que ça a été un problème pour caricaturer les femmes ?
Moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime pas ça, caricaturer les femmes.
Pourquoi ?
Bon, quand il s'agit d'Indira Gandhi ou des trucs comme ça, ça va, mais... Non, j'aime pas ça. Simone Veil, ça... j'avais pas envie d'en les dire, vous voyez ce que je veux dire. Après, il y a, comment il s'appelle, Eddie Cresson.
Ouais.
J'avais du mal avec Eddie Cresson, mais je l'ai fait. Ouais. Sinon, je les fais pas, les autres.
Ségolène Royal.
Oui, mais sans plaisir, c'est pas intéressant.
Non ?
Elle est pas inintéressante, elle, hein, je dis pas ça. Mais c'est pas intéressant à caricaturer. Ouais. Les beaux mecs et les belles femmes sont durs à caricaturer. La plupart des bonnes femmes, je ne les ai pas faites. J'ai pas fait Valérie Pécresse, je ne l'ai jamais fait. Non. On n'est pas obligé de les faire non plus. Hein.
Non, Valérie Pécresse, elle n'est pas omniprésente dans l'actualité.
Non. Puis qu'est-ce qu'il y a d'autre encore comme femme ?
Oh, il y en a tellement maintenant.
Oui, mais vraiment intéressante de premier plan. Qu'est-ce qu'il y a, il n'y a pas grand-chose. Il y a Marine Le Pen qui est chiante à faire, vraiment.
Oui.
Et personne ne la fait bien. Hein. Moi, je regarde les autres dessinateurs, ils ne le font pas bien non plus.
Et Christine Lagarde.
Ça va, ça. D'ailleurs, elle ressemble un peu à Madame Edmée de Tartemolle dans Le Fantôme qui pète.
Ah, c'est inspiré d'elle.
Oui, c'est en pensant un peu à elle que je l'ai fait, oui. Oui.
On arrive pratiquement au boulevard Montmartre, fait partie des grands boulevards parisiens.
En face, c'est le passage du panorama.
Passage des panoramas qui continue. Viaz, on est à Paris, vous adorez Paris.
Mais oui, d'autant plus encore une fois que j'y suis pas né, j'y ai pas grandi. Donc je suis arrivé à l'âge de 12 ans, j'étais dans le 16e. Le 16e c'est bien, mais c'est très excentré de Paris. Donc j'ai vraiment commencé à découvrir Paris. Je connaissais les quais, parce que j'étais bibliophile très tôt, donc j'allais régulièrement sur les quais, mais je connaissais que les quais. Après je prenais le métro, j'entrais chez moi. Et j'ai commencé à découvrir Paris en mai 68, en fait. J'avais 19 ans.
Un autre qui n'est pas né à Paris, mais qui adorait Paris, c'est Screaming Jay Hawkins. On va l'écouter chanter I Love Paris, la
chanson. Je suis d'accord. Moi, je l'ai vu chanter Screaming Jay Hawkins.
Je l'ai connu, moi.
Formidable. Formidable.
Every time I look down on this timeless town, whether blue or gray be her skies, whether loud be her cheers or whether soft be her tears, more and more do I realize.
I love Paris in the springtime. I love Paris in the fall. I love Paris in the winter when it drizzles. I love Paris in the summer when it sizzles. I love Paris every moment, every moment of the year. I love Paris. Why do I love Paris? Because my love is near. How about Germany? Germany! Chinese! Chinese! How about Africa? Africa! I saw Mau Mau kissing Santa Claus. And Paris? Paris! Oui, oui, Azur, Missouri!
C'était Screaming Jay Hawkins qui chantait I Love Paris, la chanson de Cole Porter. Nous sommes avec Viaz, on va rentrer dans le café Zéphyr qui est à l'angle du passage Jouffroy et du boulevard Montmartre. On s'y retrouve dans un instant. Nous voilà avec Viaz, assis à la terrasse du café Zéphyr, 12 boulevard Montmartre, juste en face du théâtre des variétés. Il a commandé un Coca-Cola avec de la glace et une rondelle de citron. J'ai pris un chocolat. Merci, mademoiselle.
Merci, mademoiselle. Et là, je suis tout près de mon journal, qui était au bout de la rue, à gauche, là. Qui est le Nouvel Observateur.
Qui maintenant est installé place de la Bourse. C'était quoi l'autre, l'adresse précédente
quand je suis arrivé, ils étaient rue d'Aboukir.
Rue d'Aboukir.
Après, on a été rue du Soups.
Et malheureusement, toujours dans le même quartier.
Malheureusement, l'année prochaine, alors que maintenant, on ne s'appartient plus. Maintenant, on appartient au groupe Le Monde. Donc on va déménager, on va aller du côté de la gare d'Austerlitz, ce qui pour moi est une grande catastrophe, beaucoup plus loin.
Oui, mais vous allez peut-être vous mettre à Internet.
Oui, je pense.
Pour envoyer vos dessins comme tout le monde.
Oui. C'est peut-être ce que je vais me mettre à faire. Oui, vous
avez aucun raison. Journaliste ne va à son journal.
On envoie mais c'est bien, moi j'aime bien, ça permet de marcher. C'est tellement joli. Écoutez, quand on se balade dans Paris, toutes les maisons, c'est magnifique Paris. Paris, c'est une ville formidable. Et quand on regarde à l'intérieur des cours, des trucs comme ça, c'est... Les regarde les maisons. Quand on regarde un petit peu des tas de détails, tout d'un coup on
voit. On peut plus regarder dans les cours. Maintenant il y a des.
Oui, c'est vrai.
Il y a des... Ben, c'est votre fille qui est là.
Oh oui.
Bonjour Léa.
Bonjour.
Bonjour ma chérie.
Salut.
Tu vas bien ?
Essayez-vous.
Qu'est-ce que vous voulez boire ?
Je vais prendre une grenadine s'il vous plaît.
On était en train de parler de l'Obs. Vous avez vu toute votre vie, vous avez vu votre père dessiner chaque semaine religieusement.
Oui, chaque semaine, chaque week-end.
C'était toujours le week-end.
C'était souvent le week-end. En tout cas, quand on était à la campagne, c'était le week-end.
Moi, maintenant, parce qu'en général, je les rends un peu en avance. Mais cela dit, par exemple, là, j'en avais apporté un ce matin et je vais en faire un autre. J'ai une nouvelle idée, donc je vais en faire un autre.
Et ceux que vous éliminez, justement, parce que vous avez eu une nouvelle idée.
J'arrive à les recaser après.
C'est là où on
le nombre de fois où j'ai fait un dessin, ça leur a pas plu. Et deux ans après, je le ressors et ils trouvent ça très bien. C'est absolument génial.
Léa, vous êtes la fille de Pierre Wiazemski et de...
Régine Desforges.
J'étais en train de me dire, de ne pas dire Régine
Desforges. Voilà, merci.
Elle me reprenait tout le temps.
Et voilà. J'ai repris le flambeau à ce niveau-là.
Elle vous a appelé Léa comme l'héroïne de la bicyclette bleue.
Alors, c'est moi la première.
Ah, elle a appelé l'héroïne de la bicyclette bleue.
Voilà,
comme vous.
Et ils m'ont appelé Léa à cause de Chérie de Colette.
Ah, bien sûr.
Surtout Régine qui aimait Chérie de Colette.
Ah, oui.
Oui. Moi, j'aimais bien sans plus. Et puis, c'était un joli prénom. Surtout avec un nom long comme Wiazemski, ça allait.
Oui.
Surtout qu'en russe, c'est Léa Wiazemskaya, normalement.
Quand vous l'avez connue, Régine, c'était en 77.
Oui.
Elle sortait de toutes ses aventures d'éditrice.
Elle y était encore. Mais c'est vrai que les grands procès étaient finis.
Oui.
Mais elle y était encore.
Elle avait eu tous ses procès.
Elle était dans une merde financière absolument épouvantable.
Voilà, il faut dire qu'elle était une éditrice sulfureuse. Elle éditait tout ce qui était interdit à l'époque.
Quand elle m'a contacté... Moi, je me disais, chouette, on m'a demandé de faire des dessins érotiques, etc. J'étais ravi. Et elle m'a demandé de faire Jacques Chirac.
Ah oui, pas de chance.
C'est pas la même chose.
Vous avez essayé des dessins érotiques quand même un jour?
Ah oui, oui, j'en fais plein, mais pour moi.
On les a jamais vus, ça.
Non, on les verra pas. Peut-être qu'on serait mort, peut-être ma fille fera un album.
Léa les a vus?
Oh, Léa, c'est capable de les déchirer. Elle est tellement pudique, oui, capable de les déchirer.
Vous êtes comédienne, Léa?
Oui.
Et écrivain?
Et écrivain.
Écrivain aussi, oui.
Maintenant, écrivain.
Comme votre mère, comme votre tante, Anne Wiazemski. Comme votre arrière-grand-père, François Mauriac.
Oui, je suis tombée dans le...
Je suis le seul, avec maman, le seul de la famille à n'avoir jamais écrit de roman.
Bah attends, on ne sait jamais, hein.
Oui, mais non, je crois pas.
Tout peut arriver.
Tout peut arriver, mais non, je crois pas.
Bah t'as quand même écrit des livres pour enfants, donc bon...
Oui, des livres pour enfants, mais voilà.
Tu écris.
Anne Wiazemski, votre sœur, avant de devenir écrivain, avait été comédienne.
Oui.
Avec Jean-Luc Godard, avec Robert Bresson, avec Pasolini. Vous me disiez tout à l'heure que... Jean-Luc Godard, qu'elle a épousé en 67, venait déjeuner chez vous. Il était comment, Godard?
Écoutez, moi, j'avais à l'époque, quand il est arrivé, j'avais 17 ans. Et c'est la seule fois de ma vie où j'ai eu la sensation de côtoyer un génie, vraiment. Vraiment. J'ai été ébloui par ce mec. Et à l'époque, il faisait trois films en même temps. Il faisait Made in USA, deux ou trois choses que je sais d'elle, et Anticipation. Il faisait trois films en même temps. J'étais fasciné par ce mec. Je l'ai beaucoup observé. Lui, moi, il ne me regardait pas. J'étais le petit frère. Mais moi, j'étais très fasciné par lui. Et je crois vraiment que c'est un génie. Peut-être pas un grand cinéaste, mais un inventeur de cinéma.
Pour vous, qui êtes beaucoup plus jeune que nous, il représente quoi encore Godard aujourd'hui, Léa Wiazemski?
Bah, mis à part la nouvelle vague, il représente une forme de cinéma qui... En tout cas, voilà, moi, je trouve que c'est un peu vieilli.
Godard, il a plus apporté à la télé, je trouve.
Ah bon?
Ah oui, vraiment.
La télé s'est inspirée de Godard, vous trouvez?
Ah oui, terriblement. Ah oui. La manière de filmer, ne pas filmer la personne qui parle, mais la personne qui écoute, des trucs comme ça. Le nombre de choses qu'elle a... On ne sait même pas que c'est Godard.
Ou d'écrire des citations sur des cartons qu'on filme.
C'est l'inventeur de phrases géniales, quand même. Les professionnels de la profession, tout le monde sait. On ne sait pas que c'est Godard. Il y en a trouvé plein des formules comme ça, sans faire d'effet. Et je veux dire que j'étais... Donc, encore une fois, Anne était mineure, donc elle était avec nous. Donc, on avait dit... Oui, à l'époque, la majorité était à 21 ans.
Oui.
Anne, quand elle a connu Jean-Luc, elle devait avoir 18 ans. À partir du moment où elle s'est mariée, elle était devenue majeure.
Ben, c'était le meilleur moyen pour une jeune fille de devenir une femme. À l'époque, c'était de se marier. Pour un garçon, c'était de faire son service militaire.
Mais Jean-Luc était incroyablement amoureux d'elle. Jean-Luc, amoureux, c'était un spectacle formidable.
Il était comment?
Il était mais comme Buster Keaton. Il ressemblait à Buster Keaton. Moi, je me souviens quand il est venu demander la main de ma sœur à mon grand-père Mauriac. Donc c'était lui le pater familial.
Ah, ça devait être drôle, Jean-Luc Godard.
Il s'est
et
peigné,
François Mauriac.
Il s'est rasé impeccable, il était un petit costard. C'était Buster Keaton dans le caméraman. C'était formidable.
On se retrouve dans un instant à la terrasse du Zéphyr avec Léa et Pierre Wiazemski. Nous sommes aujourd'hui en balade avec Viaz, célèbre dessinateur politique. Et nous voilà à la terrasse du Zéphyr, boulevard Montmartre, avec sa fille, Léa Wiazemski, qui porte une casquette de marin. On dirait un peu une casquette de Lénine. Vous savez, à une époque, il avait toujours une casquette comme ça, Lénine.
Un peu. Je tiens ça de mon père, parce que d'habitude, il a toujours une casquette aussi sur la tête.
Je l'ai là,
il l'a dans son sac.
C'est ça. Et pour une princesse Wiazemska, c'est drôle
Kaya,
de vous voir.
Kaya.
Princesse Wiazemskaya, c'est drôle de vous voir avec une casquette de Lénine.
Il y a des tableaux de Lénine à peu près partout à la maison, donc, mais sans casquette.
Pourquoi y a-t-il des tableaux de Lénine ?
Ça, faut demander ça à mon père.
Une fois à Drau, il y a très longtemps, bien avant la chute du mur, j'ai tombé sur deux tableaux de Lénine magnifiques, très très bien peints, et je les ai achetés tous les deux, ça coûtait rien du tout. Et en effet, il y en a un à la campagne et un chez moi, derrière la porte.
Vous parliez de Lénine avec Jean-Luc Godard, j'imagine, parce que c'était sa grande période très politisée à l'époque.
Oui, bien sûr, mais moi, encore une fois, moi j'étais le petit frère, j'écoutais plus qu'autre chose. Non, il parlait de ses films, mais même pas, je ne sais même pas de quoi il parlait. Il était très silencieux, en fait.
Dans le redoutable film de Michel Hazanavicius qui raconte les amours de votre sœur Anne Wiazemski, oui, avec Jean-Luc Godard, on les voit tous les deux bloqués sur la Côte d'Azur juste après le Festival de Cannes en mai 68.
Oui.
Et vous vous souvenez de la chanson qu'ils écoutent à ce moment-là, c'est Cuando Caliente del Sol, interprétée par Talia Ferro. C'est une chanson que j'adore. On va l'écouter.
On va l'écouter tout de suite.
When the sun is warm here on the beach, I feel you near me. It's your face, your hair, they're your kisses. I begin to tremble. Delirium. I begin to shake and tremble. When the sun is warm. Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo, son tus besos, me estremezco. Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio, mi estremezco. Cuando calienta el sol, cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo, son tus besos, mi estremecimiento. Recuerdo mi locura.
C'était Talia Ferro qui chantait. Alors pour moi, c'est Cuando Caliente el Sol. Et pour vous, Diaz?
Cuando Caliente el Sol. Cuando oui, Caliente el Sol.
Vous l'avez vu, le Redoutable?
Oui, j'ai vu.
C'était un ressemblant, ça vous a.
La première partie est bien. La deuxième partie est.
Godard amoureux, donc.
Godard amoureux. Après, je trouve ça bien un peu n'importe quoi.
Godard politique?
Oui, ils lui font dire des trucs qu'il n'a jamais dit, ça j'en suis sûr. Ouais. Et puis, je voudrais en profiter pour dire quand même quelque chose, puisque j'ai la radio. Je l'ai déjà dit à d'autres radios, mais je le redis encore une fois. Quand ma sœur est morte, le film était encore à l'affiche. Eh bien, il n'y a personne de l'équipe, ni le metteur en scène, ni les comédiens, ni celui qui faisait Godard, qui sont venus à l'enterrement. Personne.
Ah oui.
Je trouve ça nul. Voilà, c'est dit. Parlons d'autre chose.
Et vous, Léa, alors, vous hésitez entre comédienne et écrivain ou vous avez l'intention de faire les deux? Parce que Anne, elle a d'abord été comédienne, puis écrivain.
Oh, j'ai bien l'intention de faire les deux.
Aujourd'hui, tout est possible.
Aujourd'hui, tout est possible.
Même en étant actrice, on peut même devenir réalisatrice par la même occasion.
Oh, bah, pourquoi pas?
Oui, oui, on supprime les intermédiaires.
Mais c'est bien, parce que le problème d'être comédienne, c'est qu'on attend toujours derrière son téléphone. Donc, pouvoir faire autre chose, ça permet de prendre son mal en patience.
Vous croyez que c'est pour ça que les acteurs aujourd'hui en France deviennent tous réalisateurs? Parce qu'ils en ont marre de pouvoir ôter le téléphone? Ou c'est parce que les réalisateurs sont nuls et qu'ils se disent autant prendre leur place?
Non, je pense qu'il y a beaucoup de comédiens qui se disent pourquoi attendre le rôle qu'on m'écrira pas.
Vous avez toujours dessiné, Viaz?
Moi, je suis un peu comme le Spoons de Marcel Pagnol. À un moment, il y a Charpin qui dit à Fernandel, ce n'est pas que tu es un bon à rien, tu es mauvais en tout. Et moi, je me suis un peu toujours senti comme ça. Sauf, j'ai un vrai talent, c'est la bibliophilie. Très tôt, à l'âge de 12 ans.
D'où l'importance des passages dans lesquels vous chinez des livres.
Et sur les quais de Paris, tout ça. Je trouve. Je suis comme Picasso, je ne cherche pas, je trouve. Oui. Ça, mais sinon, je suis bon à rien. Je ne sais pas faire. Je ne sais pas écrire. Je ne sais pas. Je suis nul. Donc, et j'ai dessiné très tôt, oui. Oui.
C'est quoi le plaisir qu'il y a à avoir entre les mains un vieux livre? J'aime beaucoup les livres, j'aime beaucoup lire, mais je me fous totalement de l'année dans laquelle on a fabriqué le livre.
Mais c'est une maladie. Hein. Non, mais c'est une maladie, je le reconnais tout à fait. Mais là encore, je vais vous faire encore une citation, excusez-moi, c'est un peu ridicule, mais c'est une citation de Blaise Pascal pour le coup. C'est « Le plaisir est dans l'achat, c'est pas dans la prise ». C'est vrai que quand j'ai un livre, moi ce que j'aime, c'est le chercher.
C'est un livre, ça aurait pu être n'importe quoi. Vous auriez pu collectionner les coucous suisses ou...
Ah non, non, non. Non, ça je vous laisse, les coucous suisses. Chacun des fantasmes. Moi, non.
Pourquoi pas?
Non, les livres, c'est formidable. Et je collectionne les livres que j'aime, les auteurs que j'aime, encore une fois.
Oui, mais autant un tableau, c'est vrai qu'on sent la patte du peintre, il l'a touché, la mais couleur qui est là, c'est lui qui l'a mise. Mais un livre, ça n'a souvent aucun rapport avec l'écrivain.
Non, mais c'est très... D'abord, j'aime bien les livres avec envoi. Avec des envois, c'est formidable. Et puis, moi, ça m'émeut. Je veux dire, trouver un livre, je ne sais pas, avec un bel envoi d'Aragon ou de Victor Hugo, etc., ça m'émeut, oui, vraiment.
C'est les dédicaces, vous voulez dire?
Les dédicaces. Ce qu'on appelle un envoi, c'est dédicace, oui.
Ouais. Vous êtes bon en envoi, vous? Parce que vous avez dû en dédicacer pas mal de livres aussi, en tant que dessinateur.
Oui, mais ça, bon.
Là, souvent, le dessinateur se sent obligé de faire un dessin.
Oui, on fait des dessins, lui.
Ouais. Ça prend plus de temps.
Oui, mais en même temps, on s'ennuie moins, parce que c'est quand même dans les salons du livre, la plupart du temps, on ne fait rien. On est là, on attend que quelqu'un veuille daigner acheter votre livre. Au moins, quand on dessine, on ne s'ennuie pas.
Vous avez essayé de dessiner, Léa?
Alors oui, mais en général, les dessins que j'ai faits, on croit que je les ai faits à 5 ans et je les ai faits à 18 ans pour ma mère. Donc en fait, je me suis abstenue très vite de dessiner. J'ai pas ce talent, j'aurais bien aimé.
Et Picasso a dit qu'il a mis 70 ans à dessiner comme un enfant, donc on ne sait jamais. Hein.
Ouais. On ne sait jamais.
Vous ne dessinez pas du tout comme un enfant. On dit toujours, tout le monde insiste sur quel point vous êtes raffiné, élégant dans vos dessins.
Qu'est-ce qui dit ça?
J'ai vu beaucoup ça. Je faisais un grand portrait de Philippe Boucher dans Le Monde, qui disait que vous étiez le plus grand dessinateur politique de notre époque. Il insistait beaucoup là-dessus. Et sophistiqué, raffiné, élégant sont des qualités d'adulte.
Non, c'est un peu vexant même, c'est un peu agaçant. Non, c'est vrai que raffiné, élégant, ça fait prout, ma chère. Non, je ne sais pas.
Ça va très bien avec le titre de ton livre.
Oui,
ça va très bien avec le titre de ton livre.
Avec le fantôme qui pète, oui, d'accord.
Ça vous a mis mal à l'aise, hein, vous aussi, le fantôme qui pète.
Ah non, au contraire, non, j'adore. Mon fils adore.
Mais cela dit, il y a des enfants que ça rend mal à l'aise, et des adultes surtout.
Oui. Ah bah oui, j'imagine. Oui. Bah, il y a une tradition en France, hein, le pétomane, tout ça. Ça ne nous a jamais fait peur. Mais...
Non. Et puis en plus, tout le monde pète, c'est bien, c'est agréable de péter. Heureusement qu'on pète, on serait mort, sinon on meurt si on pète pas.
Europe 1.
Léa, on va vous laisser, on va continuer notre balade avec votre père. On va prendre un taxi, on va dans le 16e arrondissement. Nous sommes en voiture avec Viaz en route pour le 16e arrondissement. Viaz, est-ce qu'il y a des dessins qui vous ont coûté cher dans votre carrière ?
Coûté cher, c'est beaucoup dire. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu des dessins qui ont déclenché beaucoup de choses. Enfin, il y en a eu un en particulier. Et ce n'est pas un dessin de l'Observateur, c'est un dessin que j'ai fait pour l'émission Droit de réponse de Pollack. Je ne sais pas si vous en souvenez.
Ah oui, c'était vous.
Pollack avait une émission qui s'appelait Droit de réponse, qui était formidable, qui était en direct, qui était assez perturbante et perturbée. Et moi, j'avais toujours refusé d'y participer.
Il y avait des dessinateurs qui dessinaient.
Qui étaient au vidéographe et qui faisaient des dessins à mesure, en fonction de ce qui se passait dans l'émission. Et un jour, il me dit, Catherine Ciné, qui était son assistante, la femme de Ciné, me dit, écoute, on fait une émission sur le pont de l'île de Ré, de Bouygues. Le TF1 venait d'être acheté par Bouygues. Et moi, j'allais à l'île de Ré tous les étés, donc ça m'intéressait. J'ai dit, je veux bien, d'accord. Et j'assiste au filage de l'émission. Ce filage, c'est la répétition, en fait. En gros, Paula qui était là, on était là. Et pendant l'émission, j'ai une idée de dessin. C'est Bouygues furieux qui dit une maison de maçon, un pont de maçon, une télé de M, trois petits points. Je monte ça autour de moi. Tout le monde se marre. On dit, c'est génial, il faut le passer. Paula, d'accord, on le passe, etc. Et à la fin du filage, il y a Paula qui dit, bon, alors là, j'annonce la prochaine émission. Et moi, hilar, je dis, avec un nouveau présentateur et une nouvelle équipe. On a tous été virés.
Y compris Pollack. Et, oui, ça, Pollack. Et ça a été fin de Droit de réponse.
Oui, absolument.
Il y a eu une époque où vous étiez obligé de le cacher, que vous étiez le petit-fils de Mauriac en mai 68. Il est quand même très partisan du général de Gaulle.
Absolument, oui.
Et vous êtes plutôt...
C'est plutôt de l'autre côté. Oui, d'ailleurs, on s'est engueulé. Mais j'ai une lettre magnifique de lui que j'ai retrouvée au petit matin, rentrant du quartier latin, qui m'avait posé sur... Parce qu'on habitait ensemble, hein, depuis 1961. On avait deux appartements contigus. Et donc, on déjeunait ensemble, on dînait ensemble, on regardait la télévision ensemble, etc. Ça a duré 10 ans, quand même. Et il m'avait déposé une lettre quand même sur mon oreiller pour me dire qu'il me comprenait mieux, etc. Une très, très, très gentille lettre. Mais évidemment, on était en désaccord sur tout. C'est sûr que le soir du 30 mai 68, je me souviens, il est venu me narguer, mais comme un adolescent. Oui.
C'était le jour de la grande manifestation gaulliste.
Le jour de la grande manifestation gaulliste. Là, on avait compris en effet que c'était fini. Et il est venu, mais c'était un môme. Et maman, après, m'a dit, j'ai eu peur que tu le cognes. Je ne sais pas le cogner. Mais c'est vrai que c'était très, très, très à cran, bien sûr. Oui. C'est une période bizarre. Il ne faut pas oublier quand même que le jour de la manif du 30 mai 68, les gens ont oublié ça, mais dans le Figaro, qui est un bon journal, c'était écrit « D'autres personnes plus viriles scandaient contre Bendit Adachaud ». C'est écrit, vous pouvez vérifier. « D'autres personnes plus viriles scandaient contre Bendit Adachaud ». Ça paraissait normal. Merde. C'était une période particulière.
En janvier 2015, il y a la tuerie de Charlie Hebdo, à la fois en tant que admirateur de Volinsky ou de Cabu, mais aussi en tant que dessinateur de presse. Comment vous sentez ce jour-là ?
Je vous dirais un truc, ça a l'air totalement con à dire, j'ose à peine le dire, mais je me suis senti mal et je me suis dit, je suis en train de faire un AVC. Je suis parti aux urgences de la Rivoisière, j'ai attendu 13 heures aux urgences, c'est long. Hein. Et j'avais vraiment fait un AVC, donc j'étais à l'hôpital. J'ai rien vu, j'étais pas à la manif, j'étais hospitalisé.
Et ensuite, quand vous faites votre métier, vous le faites différemment ?
C'est vrai que ça vaut pas. Je trouve que ça vaut pas le coup. Ça vaut pas la peine pour un dessin, je trouve. Les premiers qui ont vraiment pris les dessinateurs de presse au sérieux sont les islamistes. Avant, on est jamais pris au sérieux, nous autres, les dessinateurs de presse. Jamais. C'est étonnant. Et ce que les journalistes appellent les journalistes de l'écrit, les intellectuels. Un dessin, c'est un dessin, mais ça compte pas.
Oui, c'est pas un édito.
Non. On trouve ça très bien, mais non. Moi, je me souviens d'une fois où, conférence de rédaction, il y a Jacques Julliard. Qui dit, oh, j'ai eu un papier formidable d'un Américain, politologue étonnant, brillant, etc. Moins d'un mois après le 11 septembre, il a annoncé l'attaque contre Saddam Hussein. Moi, je me permets de prendre la parole, j'ai dit, excuse-moi, mais moi, je l'ai fait la semaine d'après. C'est une évidence. Hein,
La semaine après les attentats.
Oui, la semaine d'après, la semaine du 18 au 20, au 21 septembre. J'ai fait ça dans l'Obs, c'est publié, donc vous pouvez vérifier. Il m'a regardé, mais ça compte pas. C'est un dessin, ça compte pas.
Quand vous avez fait un AVC, quand vous êtes rétabli ensuite, vous aviez peur pour votre main de dessinateur ?
Le premier gros AVC, oui. Je me suis remis... J'écris très mal encore. J'ai du mal à écrire. Mais le dessin est revenu assez vite. Au bout de 15 jours, je me remettais à dessiner.
C'est bizarre, hein ? Ça commence, oui. Est-il que vous avez du mal à écrire et pas à dessiner ?
Oui, je sais pas. heureusement d'une certaine manière, parce que j'ai moins le besoin d'écrire que de dessiner.
Et y a-t-il des choses que vous n'arrivez pas à dessiner ?
Tout ce qui est fait de la main de l'homme, avec des trucs, des traits droits, des machins, des maisons, les immeubles, c'est hors de ça.
Ah oui ?
Oui, c'est pour ça d'ailleurs que mon fantôme, ça se passe en général dans des ruines, donc c'est plus facile à dessiner, voyez-vous, dans la forêt.
Et les gilets jaunes, vous y arrivez ?
Ah oui. Encore, c'est compliqué à faire, parce qu'ils ne sont, ils sont pas tous pareils. Ce qui est vrai dans mon métier, qui est génial, et c'est peut-être un peu pareil pour le vôtre aussi, c'est qu'on ne sait rien de ce qui va se passer la semaine d'après. C'est-à-dire que tout est nouveau. C'est-à-dire que du jour au lendemain, il peut se passer un événement qui fait que ça va changer. Et c'est ça qui est passionnant dans ce métier. C'est
de
jamais savoir ce qui va se passer. Les mecs qui font de la bande dessinée, ils restent un an, deux ans sur un album. Moi pas, moi je...
Et pendant très longtemps, il restait même des décennies sur le même personnage,
le même héros. Oui, oui.
Maintenant, on fait des romans graphiques. Ça vous a jamais tenté, ça, le roman graphique ?
Mais ça m'énerve même, j'aime pas ça.
Ah bon ?
Moi, j'aime la BD, j'aime la vraie BD.
Faut pas que ça se prenne au sérieux.
Oui, ça m'énerve. Quand les dessinateurs se veulent tout d'un coup de me dire sérieux. Mais la BD, c'est sérieux, ils sont pas obligés d'avoir l'air d'être sérieux. Et vraiment, vraiment graphiquement, nuit, moi. Mais j'ai tort, hein. C'était très bien.
Nous sommes en balade avec Viaz. On se retrouve juste après les infos dans le 16e arrondissement.
Europe 1, en balade avec Viaz. Frédéric Taddeï.
Nous sommes aujourd'hui en balade avec le dessinateur Viaz et nous voilà devant le 38 avenue Théophile Gautier dans le 16e, devant cette plaque. Dans cette maison a vécu François Mauriac de 1930 à sa mort en 1970. Lui et vous, donc vous y avez vécu les 10 dernières années de sa vie.
Oui, hein, aussi, c'est-à-dire qu'on était à moitié là, moitié juste de l'autre côté du coin, un autre immeuble, c'était rue François Gérard à l'époque. Maintenant c'est rue du Père Brottier. Ils ont changé de nom, ce qui est dégueulasse. Et c'était deux appartements contigus qui s'usaient. Il y avait une double porte et on passait d'un appartement à l'autre.
C'est un bel immeuble en pierre de taille. Pourquoi viviez-vous avec votre grand-père à l'époque ?
D'abord parce que papa est mort très tôt. Et puis quand on est revenu du Venezuela où on habitait, naturellement, il a offert à maman ce qui était son atelier avant. C'est-à-dire que l'appartement de la rue François Gérard était un grand atelier magnifique. Et c'est là où on a vécu.
Et c'est là que vous êtes avec votre sœur Anne, votre mère, qui est donc la fille de François Mauriac. Oui. Chez François Mauriac, il a été plus qu'un grand-père pour vous.
Oui. Il nous aimait beaucoup, Anne et moi, je veux dire. Il ne faut pas trop le dire, mais il nous aimait particulièrement.
D'abord parce que son premier petit-fils.
Ça, c'est autre chose. À ma naissance, j'étais le dieu absolu. Parce que c'est vrai que ma tante Luce avait déjà eu trois filles. Maman avait eu une fille. Les mecs, pour le moment, ils ne faisaient pas d'enfants. Quand je suis arrivé, ça a été là. Mais cela dit, après, il nous a aimés d'abord parce qu'on aimait lire, on aimait la littérature, et on habitait avec lui.
Il faut voir l'importance qu'avait François Mauriac à l'époque. C'est un prix Nobel de littérature, il tient le bloc notes de l'Express. Donc en tant que journaliste, tant qu'éditorialiste, il est très important.
À partir de 1962, il quitte l'Express par solidarité avec le général de Gaulle, et il va au Figaro. Voilà. Mais c'est une star absolue.
Et en plus, il est gaulliste. Il est catholique et il est gaulliste.
Absolument, oui.
Donc il est, au gros, le courant majoritaire de l'époque.
Je ne suis pas sûr que les gaullistes soient le courant majoritaire de l'époque. La droite, oui, mais la droite détestait tellement le général de Gaulle. On n'a pas idée à quel point de Gaulle a été haï. Et Mauriac aussi. Mauriac a été haï toute sa vie par la droite, toute sa vie. C'est incroyable. Parce que quand on voit tous les moments importants de sa vie, il a toujours, finalement, été à gauche, passé à gauche. Je veux dire, que ce soit au moment d'abord de l'Éthiopie avec... avec Mussolini contre Mussolini, au moment de la guerre d'Espagne, il est du côté des républicains espagnols contre Franco. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il s'allie avec les communistes et il est résistant. Après, il y a la décolonisation. C'est le premier à prôner la décolonisation de la Tunisie, etc. C'est le mot « la question » d'Henri Allègre, c'est tiré d'un bloc-notes de Mauriac, ça, on a oublié ça. Donc, il était haï par la droite.
Et c'est vrai, de Gaulle aussi, ce que vous me dites, parce qu'un de ses petits-fils me racontait, je crois qu'il était élève à Saint-Jean-de-Passy, ils avaient des tas de problèmes.
Oui.
En tant que petit-fils de De Gaulle.
Moi, je n'ai pas connu des gens de gauche avant 1965-1966. J'étais d'abord à Saint-Jean-de-Passy, pas longtemps parce qu'ils m'ont viré, mais après j'étais à Janson.
Janson de Sailly.
C'était que des mecs de droite. La première fois où j'ai entendu un mec qui était PSU, je ne savais pas ce que ça voulait dire PSU, c'était PSU en fait. Mais les mecs, ils étaient tout à fait. En 1965, ils étaient Tixé-Villancourt. C'était, il n'y avait pas de doute. Et nous, on était quelques gaullistes, très peu. Et quand on voyait avenue Henri Martin qu'il y avait des gendarmes, on savait que De Gaulle allait passer. Et on se mettait là, et on le savait, il passait, il nous saluait.
C'était mignon.
Oui, c'était mignon, oui.
Et alors François Mauriac, avec vous, comment était-il? Puisque vous aviez perdu votre père jeune, vous aviez 14 ans, je crois, à peu près.
Il était, quand j'y pense maintenant, je me rends compte à quel point il était absolument adorable. C'est-à-dire que, d'abord, encore une fois, on était tout le temps ensemble. Par exemple, il faisait des critiques de télé qui sont, soit dit en passant, formidables. C'est paru en livre, c'est formidable.
Oui, oui, c'est vrai.
Mais le problème, c'est qu'il ne savait pas faire marcher la télé. Régulièrement, à cette époque-là, la télé ne marchait pas. Vous savez, ça zigzaguait en tous les sens. Et on m'appelait en urgence et j'arrivais. J'étais à l'époque chez Zorro. C'est moi qui réparais les télés. Et qui lui expliquait, parce qu'il ne comprenait pas. Il y a des choses qu'il ne comprenait pas. Quand il y avait, par exemple, quand il y avait des 5 dernières minutes et que la lumière devenait floue.
C'était l'émission avec Raymond Souplex.
Oui, c'était vachement bien. C'est formidable émission. Il y avait la devenait floue, ça voulait dire qu'il y avait un flashback. Il ne comprenait pas.
Pourtant, le flashback, ça existe depuis Le Jour se lève, de Carnet et Prévert.
Je suis d'accord, mais que ça devienne flou comme ça.
Pour oui. C'est le côté flou qu'il ne comprenait pas.
Et donc, encore une fois, moi, par exemple, il m'avait donné toute possibilité de faire ce que je voulais dans sa bibliothèque.
Et à l'époque, vous le lisiez, parce qu'il a écrit des romans formidables, oui. François Mauriac. Oui, vous le voulez bien en tant qu'écrivain?
La question ne se posait pas. J'ai beaucoup aimé Le Mystère Frontenac quand j'ai lu, par exemple. Mais sinon, c'est vrai que Thérèse Descarreaux m'avait plutôt fait chier. Et maintenant, quand je relis ces trucs, c'est plutôt ces éditos qui me passionnent. Ces éditos pendant la guerre, pendant la libération, ces bloc-notes, c'est ça qui me passionne le plus.
Et donc là, nous sommes juste au coin de la rue, dans la rue. Donc la rue s'appelait comment à l'époque ?
Le François Gérard, le peintre Gérard. J'habitais là, toi. Et les deux appartements étaient jumelés.
C'est typique, le 16e Sud. Hein. Nous sommes dans le village d'Auteuil.
Pendant la guerre d'Algérie, je ne vais pas donner le nom du mec, ça ne passerait pas bien, mais il y avait à l'étage en dessous de Mauriac, il y avait un député centriste qui avait mis sur sa porte un petit panneau « Monsieur Mauriac, c'est l'étage en dessous
!» Tellement il avait peur d'être plastiqué par l'OS. Donc en 66, vous habitiez ici, dans ce village d'Auteuil, Viaz, et j'imagine que vous écoutiez, comme tout le monde à l'époque, Michel Delpech, qui chantait Inventaire 66, et qui faisait allusion d'ailleurs au général de Gaulle.
Absolument, hein, et toujours le même président.
Toujours le même président.
Vous avez écouté, absolument.
Une mini-jupe de votre courage. Bidonville et de Mireille, yeah, yeah. Une nouvelle piaf, un petit oiseau de toutes, yeah, les couleurs, yeah. Une nouvelle d'arc qui brûle les planches, yeah, yeah. Une religieuse, un cacharel, yeah, yeah. Des cheveux longs, des idées courtes, yeah, yeah. Un vieux Paris, un Paris 2, yeah, yeah. Des paravents à l'Odéon, palmarès de la chanson est toujours le même président. Il y a eu tout ça, et puis malgré tout ça, quand je t'ai rencontré, il y a eu autre chose. Et tu as peint pour moi cette année tout en rose, toi, oui, toi. Une guerre au Vietnam, un mariage en Hollande, yeah, yeah. Pour bientôt un petit smet et la mort d'un poète, yeah, yeah. Caméra sur la lune, un drugstore opéra, yeah, yeah. Des chemises à fleurs, un étrangleur, yeah, yeah. Une bombe dans la mer, opération Tanner, yeah, yeah. Juanita Banana, un four à l'opéra, yeah. Un homme et une femme au festival de Cannes, yeah, yeah. Un tabarin en moins, un palladium en bus. Et toujours le même président. Il y a eu tout ça, et puis malgré tout ça, quand je t'ai rencontré, il y a eu autre chose. Et tu as peint pour moi cette année tout en rose, toi. Oui, toi, mon petit raton laveur, yeah, 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 yeah,
yeah, yeah, yeah, yeah. C'était Inventaire 66, interprété par Michel Delpech. Nous remontons L'avenue Théophile Gautier avec Viaz, ça vous rappelle votre enfance? Vous me disiez que ici, partout, il y a des immeubles aujourd'hui, des immeubles modernes. Il y avait des hôtels particuliers
partout,
à l'époque.
Oui.
Il y avait des laboratoires avec des odeurs épouvantables. À l'époque, on travaillait encore dans Paris. Hein.
Laboratoire Choé, je me souviens. Oui. Ouais.
Pas très loin d'ici est né Marcel Proust.
Ah,
vous
oui.
Êtes apparenté aussi. Il est né rue La Fontaine.
Oui, il est né là, absolument.
Il paraît que dans votre famille, Marcel Proust, on l'appelait Tonton Marcel.
Oncle Marcel.
Oncle
c'est
Marcel.
Pas dans ma famille, c'était la mère de ma tante Marie-Claude.
Ouais.
Madame Mante, Suzy, qui lui ressemblait à Proust comme de goût. Elle n'avait pas de moustache, mais c'était limite. Et elle était... Oui, elle parlait d'Oncle Marcel, mais elle l'avait très bien connu. Elle était la seule héritière, c'était bien.
Ah oui. Edmond Rostand aussi, vous y êtes apparenté.
Oui.
Hein.
Oui, mais ça, c'est par alliance, c'est la même alliance. Rostand, Proust, c'était l'église d'Auteuil, qui est très laide, bien entendu.
Qu'est-ce que vous dessiniez, vous, quand vous étiez petit?
Mon premier dessin, c'était un trois-mâts. Et mon deuxième dessin, c'est un naufragé. Et après, j'ai oublié. Après, j'ai dessiné. Ça dépendait des films que je voyais. Quand j'ai vu Guerre et paix italo-américain.
Et avec Henri Fonda.
Oui, génial. C'est des batailles, etc. Des corridas, beaucoup.
Dessiner des corridas.
Oui. J'adorais ça, la corrida. Et puis après, quand j'ai vu Moby Dick, je dessinais des baleines. Ça dépendait.
Là, on est en plein dans la rue d'Auteuil. Hein.
C'était le village d'Auteuil, c'est là où habitait Molière. Hein.
Aussi, oui. Et ici, c'est vraiment le village d'Auteuil, avec des petits immeubles hein, de trois étages,
oui.
Pas plus. Des façades blanches, beaucoup de commerçants, de petits commerçants.
C'est charmant, ça, Auteuil, c'est tout. Vous voyez, encore des trucs pour faire monter le blé, le bois là-haut, là.
À quel moment est-ce que vous avez vos meilleures idées de dessin, Viaz?
C'est ça qui est formidable. J'en sais rien. En général, c'est plutôt dans les transports en commun, je vais vous dire.
Ah bon?
Oui, ça marche bien. Mais cela dit, j'en sais absolument rien. Et encore une fois, un dixième de seconde avant, je ne l'ai pas. Et tout d'un coup, il y a des choses qui me paraissent évidentes. D'abord, ça n'arrive pas toujours. Des fois, il n'y a pas d'idée.
Mais vous êtes obligé de vous informer en permanence, non? De savoir
radio,
toujours.
J'écoute Europe.
Ouais.
On va pas tarder à passer devant le Mouton Blanc.
Qu'est-ce que c'est le Mouton Blanc?
C'était le restaurant où on allait avec Jean-Luc, où il y avait un truc absolument divin.
Et Jean-Luc avait, Godard, donc. Hein.
Oui, pardon, excusez-moi, Jean-Luc Godard, mais c'est un metteur en scène suisse. Et il y avait ce qu'on appelle le mystère au chocolat. C'est une glace mystère enrobée de chocolat bruyant. C'est divin. J'ai jamais trouvé ça ailleurs.
Vous l'avez jamais revu, Godard?
Non, je l'ai pas vu depuis 1974-1975. Je l'ai vu quand on était gauchiste et quand je travaillais à J'accuse avec lui, un petit peu.
C'était quoi, J'accuse?
J'accuse, alors là, pour le coup, c'était Mao, mais c'était les Mao démocrates. C'est-à-dire que...
les Mao démocrates,
non,
c'est
non, oui, mais les Mao, il y avait deux catégories. Il y avait les militants... C'était les Glucksmann et compagnie. Et puis les démocrates, les petits cons, utiles. Et donc je ne suis pas resté longtemps parce que c'était épouvantable. Et je me souviens du moment où le Dantec a décidé de jumeler, J'accuse, avec la cause du peuple. Il fallait voir qu'il y avait. Il y avait Sartre, il y avait Alexandre Astruc, il y avait Godard, il y avait tout cela. Silencieux, ils ne disaient rien. On a été deux à ne pas être d'accord, c'était Jean-Pierre Bomberger et moi. Il y a un moment, le Dantec, on avait marre, il dit, bon, écoutez, on vous a offert ce débat parce qu'on est démocrate, mais de toute manière, on a la majorité à J'accuse et la majorité à la Côte du Peuple. Alors, on passe au vote. Et donc, là, je suis parti.
Ah, c'était l'époque. Hein.
Oui, salut Mao.
Tiens, rue Pierre Guérin, vous savez qui on est, rue Pierre Guérin, vous savez qui habitait rue Pierre Guérin?
Non.
C'était Félix Youssoupov, le prince.
Mais je
l'ai assassiné à Spoutine.
Je l'ai croisé, rue Youssoupov.
Ah, ouais. Oui. Oui, il est mort tard en 67,
oui,
à
oui,
peu
oui.
près.
Je l'ai croisé dans le quartier, oui.
C'était un héros pour les Russes blancs
C'est rien du tout. Vous savez, papa, après la guerre, a vraiment rompu avec la communauté russe, hein, vraiment.
Ouais.
Contrairement à sa sœur, qui, elle, a toujours lu que des canards russes, etc. Non, papa était totalement... Encore une fois, il a...
Et vous-même, vous êtes allé en Russie
oui.
Vous avez essayé de réclamer à Vladimir Poutine vos anciens palais. Ce qu'a fait la fille de Youssoupov. Elle a écrit une lettre à Vladimir Poutine pour lui dire que c'était une honte qu'elle soit obligée de descendre à l'hôtel alors qu'il y avait des palais qui lui appartenaient.
Mais la plupart de mes palais, je crois, ont brûlé. Et surtout, le palais qui reste, qui est vachement bien, c'est le palais Voronzov, c'est-à-dire ma grand-mère, qui se trouve en Crimée. Donc, ouais. Ça a été récupéré. Moi, je suis le seul à pouvoir dire que la Crimée est vraiment russe, puisque le grand-père de ma grand-mère, le général comte Voronzov, était vice-roi de Crimée. Alors, je les emmerde. La Crimée est russe. Et mon palais s'appelle Aloubka, qui est devenu un musée maintenant.
Mais je crois que vous êtes un peu apparenté à Anne de Kiev, qui a été la reine de France. C'est... Vous allez me dire que l'Ukraine aussi, c'était la Russie.
Bien sûr, à ce moment-là, oui, c'était la fille de Yaroslav. Et Anne de Kiev, la mère d'Anne de Kiev, était princesse de Byzance, et prétendait descendre, enfin, cette lignée-là, ça s'appelle les Philippins, les Philippiques, un truc comme ça, prétendait descendre de Philippe de Macédoine.
Le père d'Alexandre le Grand.
Oui. Ce qui fait que...
Quelle famille.
Appelez-moi monsieur.
On se retrouve tout de suite avec Viaz dans le village d'Auteuil. Nous voilà rue La Fontaine. Nous sommes devant le 75 rue La Fontaine, une façade historique, un fromage français et étranger. Depuis 1890, c'est la fromagerie La Fontaine. Il y a également écrit « Changement de propriétaire ». Et c'est vous, Viaz, qui avez dessiné les emballages, les papiers d'emballage.
Absolument. Il se trouve que j'adore le fromage. Il se trouve que je connais depuis sa naissance la fromagère qui s'appelle Clara Solvi et son homme qui s'appelle Lucien.
Ce sont eux les nouveaux propriétaires.
Regardez, ils sont magnifiques. Ouais. Ils adorent ça, ils font ça vachement bien. Et un jour, on m'a demandé de faire un dessin, je l'ai fait et ça a plu. Au départ, ça devait être juste un petit cucu comme ça et finalement, ça sert un peu à tout. C'est sur la devanture de la fromagerie. C'est sur le papier, c'est sur les cartes de visite.
Voilà. On va rentrer.
On rentre, oui.
Ah oui, rentrons.
Regardez comme ça a l'air bon.
Moi, j'adore le fromage.
La seule chose que je reproche à cette fromagerie, c'est d'être complètement à l'autre bout de Paris par rapport à moi.
Eh oui. Ben oui, mais c'est pas loin de chez votre grand-père.
Oui, d'accord, mais j'y vais plus.
De chez Proust. Proust habitait là.
Proust habitait un peu plus bas.
97.
Oui, oui. Bonjour Clara. Vous pouvez venir un peu, Mlle Solvi? Oui. Monsieur Tadei, Madame Clara Solvi.
Vous avez eu envie de devenir fromagère?
Tout à fait, oui.
Rien ne s'y prêtait au départ.
rien ne s'y prêtait, non. Mais bon, il y avait quand même quelques petits éléments dans ma vie qui ont fait que je me suis dirigée vers ce genre d'univers.
Ah oui, vous aviez envie de faire du fromage, d'en vendre
J'avais envie en tout cas de changer de vie, ouais. Voilà. Et du coup, j'ai fait une reconversion il y a 2 ans.
Et alors, quel est le fromage que vous recommandez ici?
Alors, il y a beaucoup de fromages que je pourrais recommander. Après, puisqu'ils sont a priori tous prêts à être dégustés. Vous avez des fromages un peu rares. On est essentiellement au lait cru et fermier. Et des petites spécialités maison, comme le gâteau fromage.
Les sapins bleus, par exemple.
Sapins bleus, c'est un bleu qui vient de Haute-Savoie, qui est au lait de vache, qui est assez onctueux, pas trop puissant et savoureux.
Voilà. Quoi d'autre?
Quoi d'autre qui peut être sympa? La pâte de coin maison. Après, qui va bien avec le Roquefort ou avec pas mal d'autres fromages à pâte dure aussi. Vous avez le Saint-Nectaire qui est particulièrement beau, qui est là-bas sur la gauche, qui
ouais,
vient
magnifique.
D'une ferme qui s'appelle la ferme de la Chaux. Voilà.
Très beau. C'est quoi votre fromage préféré?
J'aime les bleus, moi. Ah alors oui. Tous, ils me font tous envie là.
Le gorgonzola, mais bon, c'est pas français alors.
Je te signale que je suis né à Rome, donc je suis un petit peu italien.
Ah bon, alors ça va.
Et alors
sais que t'as un fait pour le gorgonzola.
Le papier d'emballage qui vous a dessiné n'est pas encore prêt?
Il est en chemin vers nous normalement. Voilà, mais il y a déjà le dessin sur.
Ça représente quoi?
Donc en fait, nous sommes rue Jean de la Fontaine. Et une fromagerie rue Jean de la Fontaine, la fable du corbeau et du renard s'imposait. Et du coup...
On est compte, l'intelligence de l'auteur. Jean de la Fontaine, le corbeau et le renard, il fallait y penser.
C'est ça.
Voilà. Oui, vu qu'il y a un fromage. Mais vous savez que ce n'était pas la rue Jean de la Fontaine au départ, c'était la rue des Deux Fontaines, parce qu'il y a une source en dessous.
Oui, c'est vrai qu'il y a une source en dessous. Voilà. Et oui, l'eau coule juste en dessous de notre...
On a baptisé cette rue à cause de Jean de la Fontaine, mais non, au départ, c'était
mais
juste
en fait,
pour
elle
la Fontaine.
S'appelait rue La Fontaine, et il y a une rue dans le 9e qui s'appelle la rue La Fontaine, et du coup, pour dissocier, en tout cas, maintenant, c'est la rue Jean de la Fontaine. Non, mais c'est vrai. Hein.
Ici, en face, là, de l'autre côté de la rue, il y a le panneau rue La Fontaine, et au-dessus, le panneau rue Jean de la Fontaine.
Rue Jean de la Fontaine. Parce qu'il y avait des amalgames, il y avait beaucoup de taxis qui se trompaient.
Les taxis qui venaient chez vous.
Voilà, exactement, qui venaient chez nous.
Elle est très, très vieille, cette fromagerie. Hein.
Elle date de 1890, oui. Ouais. En fait, depuis la construction de l'immeuble, ça a toujours été une fromagerie. Ouais. Ah, donc, on a des caves magnifiques qui sont attenantes à la fromagerie.
Vous êtes plus jeune, vous, mademoiselle?
Je ne date pas de 1890.
Ici, vous devez avoir une clientèle formidable, puisque juste à côté, il y a la Villa Montmorency, où il y a la plus grosse concentration de fortune de France.
Oui, je pense qu'on a quelques clients. Après, ce qui est vrai, c'est que Auteuil, c'est un peu un petit village à part dans le 16e. Et du coup, on a des clients vraiment de tout le quartier, des immeubles à côté.
Les livrer parfois dans la Villa Montmorency, parce que vous avez remarqué, c'est le seul endroit endroit en France où il n'y a aucun nom sur les boîtes aux lettres.
Oui, c'est vrai. Mais je n'ai encore jamais livré personne, évidemment, mon Rossi. Mais j'espère qu'un jour, jour j'aurai l'honneur de rentrer dans la villa.
D'être rentré dans la villa à un moment aussi.
Oui, parce que de mon temps, d'abord, c'était ouvert. J'avais une copine de classe de ma sœur qui s'appelait Blandine Janson, qui habitait là. Qui, plus tard, après, est devenue Mao, a épousé Cher Julie. Donc, vous voyez, c'est comme quoi. Ouais. Mais d'habiter Villa-Montmorency, oui. Ouais.
J'oublie toujours que vous êtes un ancien révolutionnaire, Viaz.
Très dangereux révolutionnaire.
Oui, vous étiez à Cuba en 70.
Ah oui, c'était pas vraiment la révolution, mais j'étais à Cuba. J'adorais ça. Quelqu'un était content.
Ouais.
Et vous n'avez jamais été gauchiste, non?
Bah, j'ai pas l'âge, moi, je suis plus jeune.
C'est ça qu'il est jeune.
Je suis moins jeune qu'elle.
C'est agaçant. Même en 68, je n'aimais pas les jeunes. Et je détestais les vieux qui s'appêtaient à quatre pattes devant les jeunes. C'était vous êtes Roger Coudert, disant « Vous nous faites honte de nos vies », etc. Je trouvais ça mais complètement ridicule.
Et derrière, Lucien, votre mari, lui, prépare le fromage ?
Oui.
Bonjour. Qu'est-ce que vous faites derrière ?
Des préparations ?
Ah oui,
des coupes ? L'emballage, la mise en place.
Et le fromage arrive déjà tout fait ici. Hein.
Oui, on choisit nos producteurs, on fait des précommandes, on nous envoie la marchandise et on l'affine jusqu'au moment où elle est bien pour être vendue.
Qu'est-ce que vous me recommandez d'acheter là ?
Un langre. Ils sont très beaux les langres, si vous aimez le langre.
J'adore les langres.
Ils sont juste derrière vous sous cloche.
Ben, je vais prendre un langre. Merci.
C'est moi qui vous remercie, écoutez.
De nous avoir emmenés en balade avec vous aujourd'hui. J'en profite pour remercier le Café Zéphyr pour leur accueil. On se retrouve la semaine prochaine à 11h.